savoir me catapulte. La fraîcheur à l'affût, ça tue l'ancien avec de l'actu. Chaque époque, les MC reviennent, essayent de prendre la vague. T'avais pas pu prendre le style, donc t'essayes avec le swag. Les MC emprisonnent leur style, font du rap de garde-à-vue. J'me l'achève, j'ai vu qu'ils brassent du vent, donc j'déploie la voile. J'ai vieilli, j'aime prendre un coquillage pour écouter la mer. Et j'évite un peu de mettre un casque pour écouter la mer. J'ai saisi que le monde est vaste, mais qu'on lui met des barrières, des képis dans nos affaires et des épines dans nos artères. J'me suis construit une cervelle sur pilotis afin d'être au-dessus des courants. Original boucan, au signal j'fous le camp. Ça sert à rien d'être si mûr si c'est pour finir dans le tourment. À force de regarder le mur, t'as oublié de prendre le tournant. Choc électrique sous tension du breakbeat.
La mode change vite
et les courants s'effritent.
Actuel, ok, mais pas à la mode.
Actuel, ok, mais pas à la mode. Choc électrique
sous tension du breakbeat.
La mode change vite
et les courants s'effritent. Actuel, ok, mais pas à la mode.
Actuel, ok, mais pas à la mode.
J'aime pump it up. Des rappeurs sur scène, je peux faire le ventriloque. Il arrive que le poison contienne son antidote. Vois l'effet du rhum au pack d'Heineken qu'on sirote. Au dernier sondage IFOP, j'ai ma courbe de points qui cote. Faut juste un album qui sorte pour la mort du hip-hop. J'ai pris le non-stop.
RFI, il est 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI matin, Marion Cazanov.
RFI matin, ça commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Nouvelle nuit de frappe en Iran.
Mais aussi en Israël, au Liban, ainsi que dans plusieurs pays du Golfe. On fait le point dans ce journal. Vous entendrez également l'inquiétude d'une Iranienne installée en France. La guerre, elle l'admet, elle l'attendait pour renverser le régime, mais elle espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Dans ce journal également, Donald Trump qui renvoie sa ministre de la Sécurité intérieure. On sera au Nigeria où des évêques anglicans conservateurs venus de plusieurs dizaines de pays ont élu hier le dirigeant d'un nouvel organe en opposition à l'archevêque de Canterbury. Et puis le sélectionneur des footballeurs marocains Walid Regragui met fin aux rumeurs, qui avait vu juste d'ailleurs, il quitte son poste.
Des explosions à Téhéran cette nuit.
Et l'Iran réplique en annonçant tirer des missiles vers Israël, tandis que l'État hébreu a de son côté frappé plusieurs cibles au Liban. On s'y intéresse dans quelques instants, mais d'abord direction Dubaï, où vous êtes notre envoyé spécial Guilhem Deltey. Dans le Golfe aussi, Guilhem, des frappes ces dernières heures.
Oui, Gaëtan, des attaques qui ont commencé au Qatar en fin de matinée. Hier, à partir de 11h51, indique le ministère de la Défense, plusieurs vagues ont visé le pays. En tout, 14 missiles et 4 drones. Tous ont été interceptés, à l'exception d'un missile tombé en mer. Et l'Émirat a annoncé cette nuit encore avoir intercepté un drone visant la base américaine d'Al Udeid. Dans la soirée, un incendie s'est déclenché dans l'une des unités de la raffinerie de l'entreprise pétrolière de Bahreïn. C'était à la suite d'un tir de missile iranien. Les autorités ont annoncé dans le royaume que 2 hôtels et 1 immeuble ont aussi été endommagés. Enfin, les Émirats Arabes Unis ont aussi lancé des alertes à leurs résidents hier soir à Abu Dhabi, à Dubaï, à Sharjah. Les téléphones ont sonné, un bruit d'alarme et un message enjoignant les personnes à se mettre à l'abri. Au cours de la journée d'hier, 7 missiles balistiques et 131 drones ont été détectés visant le pays. La plupart ont pu être interceptés.
Et tout ça, Guilhem, complique évidemment les opérations de rapatriement menées par plusieurs pays.
Oui, Etihad, Emirates, Qatar Airways, les compagnies de la région ont commencé à reprendre quelques liaisons pour permettre à leurs passagers bloqués de partir. On commence à entendre à nouveau le bruit des avions dans le ciel. Ici, entre hier et aujourd'hui, la compagnie Emirates s'est fixée pour objectif d'opérer 100 vols. Mais après plusieurs jours d'interruption totale des vols, les candidats au départ restent nombreux. Le gouvernement français a, par exemple, annoncé que 5000 Français souhaitent quitter la région. 750 ont déjà pu le faire pour faciliter le retour de ceux toujours présents. Air France a tenté hier d'envoyer un premier avion à Dubaï depuis le début de la guerre, mais les tirs de missiles qui ont visé les Émirats dans la soirée l'ont finalement poussé à faire demi-tour.
Merci Guilhem Deltey, envoyé spécial de RFI à Dubaï.
Et on le disait, il y a eu des explosions entendues cette nuit aussi à Téhéran.
Rapporté par la télévision publique iranienne, alors que l'armée israélienne dit avoir entamé une série de frappes à grande échelle sur la capitale iranienne, affirmant viser des infrastructures du pouvoir, les gardiens gardiens de la révolution disent répliquer en tirant des missiles et des drones en direction de Tel Aviv. Et puis il y a aussi le Liban, où l'agence de presse officielle ANI a fait état ce matin de frappes israéliennes pendant la nuit dans le sud du pays. Pas de victimes annoncées pour l'instant, alors que le dernier bilan des frappes israéliennes de ces derniers jours faisait état de 123 morts, selon les autorités libanaises. Hier, c'était la panique à Beyrouth, où l'armée israélienne, qui affirme viser des positions du Hezbollah pro-iranien, a appelé les habitants du sud de la capitale à évacuer. Dès mardi, les soldats israéliens sont entrés dans les villages du sud Liban, annonçant vouloir y créer une zone tampon au sud du fleuve Litani. Alors faut-il s'attendre à une nouvelle occupation israélienne dans le sud du pays ? Pierre Razou n'y croit pas, il est directeur académique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques.
Le Hezbollah a placé une grande partie de ce qui leur reste de missiles, de roquettes à longue portée, etc. entre le sud Beyrouth et le nord du fleuve Litani. Et c'est dans cette zone-là, à mon avis, que les Israéliens vont agir. Parce qu'en fait, c'est paradoxalement là, maintenant, que s'est reconstitué, si vous voulez, le bunker et la force de frappe du Hezbollah. Et occuper durablement la zone au sud du Litani, ça leur coûterait beaucoup trop de personnel sur une période trop longue. Et surtout, ça les met dans une situation de vulnérabilité face à des tirs des différentes milices, et notamment du Hezbollah, mais pas que. Donc la logique, c'est plutôt que les Israéliens établissent une bande tampon de quelques kilomètres, disons entre 5 et 8 kilomètres, à la frontière nord de leur pays, c'est-à-dire en fait dans l'extrême sud du Liban, et qu'ensuite ils agissent ponctuellement sur le reste du sud Liban pour essayer de désarmer et de taper les centres de commandement et les centres de missiles du Hezbollah.
À propos recueilli par Nicolas Falaise, notez que le chef des rebelles houthis du Yémen, pro-iranien eux aussi, affirme que son groupe a le doigt sur la gâchette et est prêt à frapper à tout moment si les développements l'exigent.
Une situation que la diaspora iranienne suit de près en France notamment.
À notre journaliste Yoram Melloul a rencontré Rana à Marseille. Elle organise les manifestations de la toute petite communauté iranienne, moins de 200 personnes selon elle, présentes dans la ville.
Rana, la trentaine, espère que la guerre va permettre de faire tomber définitivement le régime.
Cette guerre qui est arrivée, je pense qu'on l'a demandé un peu. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'une guerre, c'est pas dangereux. C'est parce qu'on est arrivé dans un impasse, qu'on n'avait pas d'autre solution pour dire comment on va réussir à faire tomber Khamenei.
Elle a fêté l'élimination de l'ancien guide suprême de la République islamique, qu'elle tient pour responsable des dizaines de milliers de morts causées par la répression des manifestations de janvier dernier.
C'était comme un truc impossible, qu'on pensait jamais être vivante et être en témoin. Bien sûr, on a fait la fête, mais c'est vrai qu'après 4-5e jour des attaques, on est inquiète quand même.
Depuis le début de la guerre, pratiquement impossible de joindre ses proches faute d'accès à Internet en Iran. Son père est toujours à Téhéran, il refuse de quitter la ville.
Des fois, il capte, mais c'est vraiment très rarement. Il essaye plusieurs VPN. Comme les nombres d'attaques sont en train d'augmenter, on ne sait pas si ça va aller dans 2 heures ou 3 heures. Et surtout, comme on n'a pas de contact, c'est très compliqué.
Rana manifeste régulièrement contre le régime depuis janvier. Pour elle, pas question de retourner en Iran tant que celui-ci est en place. Yoram Melloul, Marseille, RFI.
À noter aussi ce bilan des États-Unis qui disent avoir coulé plus de 30 navires iraniens depuis le début de l'opération conjointe lancée avec Israël. Donald Trump l'affirme, un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une perte de temps selon lui. Pour retrouver toutes les dernières informations au Moyen et au Moyen et au Proche-Orient, vous retrouvez notre live sur RFI.fr.
Des cages de MMA à un poste gouvernemental.
Le grand saut de Mark Wayne Mullin, déjà sénateur républicain depuis quelques années et sa retraite sportive, le voici prochain ministre de la Sécurité intérieure aux États-Unis. Il faut encore que la Chambre haute dise oui, mais c'est en tout cas lui qui a été choisi par Donald Trump, qui le décrit comme un guerrier MAGA. Lui, donc, qui sera chargé de remplacer Christine Noem, démise de ses fonctions. Hier, c'est la première fois depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche que le président américain se sépare d'un responsable de son administration. À Washington, Vincent Souriau.
Christine Noem paye d'abord la gestion catastrophique des opérations migratoires dans le Minnesota et son jusqu'au boutisme après la mort de René Good et d'Alex Pretty. Alors que les vidéos de leur décès faisaient encore le tour du pays, la ministre de la Sécurité intérieure s'était précipitée devant les caméras pour leur coller sur le dos l'étiquette de terroriste alors que l'enquête n'avait même pas commencé. Elle n'est jamais revenue sur ses propos, bien que cette séquence ait coûté nombre de points à Donald Trump dans les sondages. Mais il y avait beaucoup d'autres autre sujet d'agacement à la Maison-Blanche. Sa communication frénétique, ses dépenses faramineuses comme ce contrat de 200 millions de dollars pour des spots publicitaires à la gloire de son ministère. La goutte d'eau aura été son audition devant le Sénat il y a quelques jours où Christine Ohm s'était pris les pieds dans ses dossiers sous la pression des sénateurs démocrates et républicains. Donald Trump a désigné l'un de ses proches pour la remplacer, le sénateur Mark Cohen Mullin, considéré comme un partisan de la ligne dure en matière d'immigration et qui sera nommé à condition de passer le vote du Sénat. Vincent Souriau, Washington RFI.
L'attente des résultats au Népal, ça pourrait prendre plusieurs jours, mais le dépouillement est en cours. Au lendemain des élections législatives, les premières depuis le mouvement de la génération Z qui avait chassé l'ancien pouvoir en septembre dernier. On en reparlera dans la Fabrique du Monde avec Guillaume Nodin juste avant le prochain journal.
Un autre vote qui avait lieu hier.
Celui des évêques de la Global Anglican Future Conference, un mouvement conservateur de l'église anglicane. Ils étaient réunis depuis lundi à Abuja, au Nigeria, venus d'une cinquantaine de pays, et ils ont annoncé la création d'un conseil anglican mondial, lui trouvant même déjà un dirigeant, un évêque rwandais. Ça officialise en tout cas le divorce annoncé il y a plusieurs mois depuis la nomination de la Britannique Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury, première femme à prendre ce poste. Elle doit officiellement être intronisée à la fin du mois pour devenir la plus haute dirigeante religieuse de l'Église d'Angleterre et la chef spirituelle de la communion anglicane présente dans quelques 165 pays. Une nomination qui n'avait pas plu à tout le monde, notamment en Afrique. Correspondance à Lagos d'Harmonie Pandinyanga.
Je ne suis pas un rival. Elle est au siège de Canterbury. Moi, je suis dans la communion anglicane globale, affirme l'évêque rwandais Laurent Banda. Il a été élu jeudi président du nouveau conseil dirigeant du GAFCON, un mouvement conservateur de l'église anglicane très implanté en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le mouvement est né de l'opposition à certaines évolutions de l'église d'Angleterre, notamment la bénédiction d'union de personnes de même sexe. Puis, la fracture s'est agrandie avec la désignation de Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury, considérée comme trop libérale. Sa nomination avait été jugée dévastatrice par l'archevêque Henri Ndoukouba de l'église du Nigeria, pays où vivent 18 des 95 millions d'anglicans du monde. Il avait estimé que la majorité d'entre eux ne souhaitent pas d'une femme à la tête de leur église. La mise en place d'une instance dirigeante parallèle et autonome au sein du GAFCON consomme un peu plus la rupture avec l'église d'Angleterre, dont ils ne reconnaissent plus la primauté et qui, selon le porte-parole du GAFCON, ne répond plus aux besoins des anglicans. La communion de l'église anglicane a réagi dans un communiqué. Nous reconnaissons qu'il y a de la souffrance et des divisions au sein de la famille, mais le Christ appelle son église à être une. Harmonie Pondinyaga, Lagos, RFI.
RFI 6h11 à Paris. La convention de l'ONU sur les espèces migratrices est inquiète.
Inquiète du sort des milliards d'oiseaux, poissons et mammifères qui chaque année migrent parfois sur des milliers de kilomètres à travers les steppes, les rivières, les océans ou encore dans le ciel. Une migration ô combien importante pour la nature comme pour l'homme d'ailleurs, puisque ça contribue à la pollinisation par exemple ou encore au contrôle des maladies. Et bien 2 ans après le premier état des lieux mondial et à quelques jours d'une réunion au Brésil, la convention de l'ONU sonne donc l'alerte, Lucie Gimbert.
49% des espèces migratrices protégées par ce traité international sont en déclin. C'est 5% de plus qu'il y a 2 ans. Certains animaux vont mieux tout de même par rapport à 2024, comme le phoque moine de Méditerranée, l'oryx algazel quasiment éteinte en Afrique, ou encore la saïga, la seule antilope d'Eurasie, reconnaissable à ses longs naseaux tombants. Kelly Malch a dirigé ce travail.
La population d'antilope saïga fluctue beaucoup en raison de maladies. Il est donc très important d'avoir des mesures de protection de l'espèce. La concertation pour protéger son habitat et lutter contre le braconnage a été décisive, en particulier au Kazakhstan.
Mais 26 autres espèces migratrices sont encore plus menacées. L'inquiétude est très forte, notamment concernant les raies et les requins en déclin. Amy Frankel est secrétaire exécutive de la Convention sur les espèces migratrices.
L'une des principales menaces, ce sont les captures involontaires. Les raies et requins ne sont pas ciblés volontairement pour être mangés ou vendus, mais ils se retrouvent pris dans les filets.
Des progrès ont été réalisés pour mieux cartographier les itinéraires de migration des animaux, mais ces zones en question, bien souvent, ne sont pas assez protégées.
Lucille Gimbert et puis Walid Regragui et les Lions de l'Atlas, c'est fini. 2 mois après la finale de la CAN perdue contre le Sénégal et un petit peu plus de 3 mois avant le Mondial, le sélectionneur des footballeurs marocains a annoncé quitter son poste dans la soirée, confirmant les rumeurs qui tournaient depuis quelques semaines. C'est Mohamed Ouahbi qui le remplace.
Et on en parlera dans le journal des sports dans 30 minutes. Merci Gaëtan Plenet pour l'heure. 6h13 à Paris, on est ensemble jusqu'à 9h. Et ce matin encore, on suit largement les derniers développements de la guerre au Moyen-Orient. L'armée israélienne a frappé cette nuit la banlieue sud de Beyrouth, également le sud du Liban, mais aussi la capitale iranienne Téhéran. Les gardiens de la révolution, eux, ont dit avoir tiré des missiles vers Tel Aviv. Vous suivez la situation sur notre direct en une de notre site internet. On sera aussi ce matin en direct de Jérusalem et de Beyrouth avec nos correspondants, également avec Rima Abdulmalak, directrice du journal libanais L'Orient le Jour. Notre grand invité Afrique ce matin est Abdoul Sako, militant de la société civile en Guinée. Il revient sur la multiplication des enlèvements dans le pays, des enlèvements qui ciblent désormais les proches d'opposants politiques. Et puis nos rendez-vous quotidiens, La Fabrique du Monde, retour sur les soulèvements de la Gen Z, aujourd'hui l'économie, sur les mariages précoces, on lira aussi la presse et on fera des points donc sur l'actualité sportive. RFI Matin, vous avez le programme, bon réveil à notre écoute. Près d'une semaine après les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Téhéran, toujours sous les bombes, a lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël et les pays du Golfe. Jusqu'ici, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Qatar, le Koweït, l'Azerbaïdjan ou encore Bahreïn ont été ciblés par des missiles et des drones iraniens. Cette riposte suscite énormément de désinformation. Grégory Genevrier, sur les réseaux sociaux, les images générées par intelligence artificielle sont partout, à tel point qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux.
Oui, et le symbole de cette guerre informationnelle en cours n'est autre que le porte-avions américain Abraham Lincoln. Pièce maîtresse du dispositif maritime de l'US Navy, le navire a été ciblé par des missiles iraniens en début de semaine. Plusieurs vidéos assez impressionnantes ont alors fait leur apparition sur les réseaux. La plus virale prétend montrer l'USS Lincoln en feu, en train de couler. En commentaire, certains parlent à tort d'une démonstration de force historique de l'armée iranienne.
Sauf que ces images ne sont pas réelles.
Non, cette vidéo vue plus de 50 000 fois.
En silence, comme pour encore mieux m'égarer, pour ne pas te donner la chance, pour ne pas me laisser te confier ce qui s'agit dans ma panse, ce qui palpite dans mes pensées. De toute façon, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est embrouillé. Puis ça sent un peu trop l'essence. Et puis ça sent le chien mouillé. Alors n'y vois pas d'inconvénient. Si cette nuit sur la pointe des pieds, en silence, sans rien avoir à rajouter, je descends l'escalier comme on danse. Le pantalon perdu sous les souliers, en laissant mon slip éminence perdu sous le sommier. Je quitte enfin la résidence pour ne pas te faire espérer une explication de mes absences. Les yeux perdus sous le plancher, quand tu disais demain c'est dimanche, je disais ah bon c'est férié. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée, en silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée. En silence, sans même tenter de t'expliquer par quelle inadvertance j'ai tenté hier soir de me raconter ce qui te semblait des invraisemblances. Mais t'es en somme en vérité, je suis bourré de condescendance pour mes faiblesses et dur avaler. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée, en silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée.
sais pas, c'est pas trop mon délire, on en a déjà parlé plein de fois. Mais c'est la dernière fois qu'on a cette discussion. Gringe, dis-nous ce que tu penses de la prostitution.
Des fois tu trompes ta meuf, ouais. Mais tu te sens limité, ouais. Bah retiens ça, 50 c'est le prix de la tranquillité, hein, 50. Le meilleur moyen de te vider sans te faire piquer, c'est certifié, pensez avant de critiquer. Fini les appels nocturnes, les numéros masqués, le stress de te faire péter chaque fois que tu la sens vibrer. À toi qui a jamais su tricher sans justifier, dis-toi qu'il y a que Jésus qui a pas menti. Résultat, crucifié. Amen. Les putes c'est comme une séance chez le psy. Le petit plus c'est que pour le même prix t'as une personne qui consulte et qui te suce. Sans barrière de langue ni distinction d'âge. Moi j'avais même pas 20 ans, j'ai vite choper le virus, c'était la même chaque jour. J'élaborais des plans savants pour me faufiler de chez moi jusqu'à ces J9 de l'amour. 3h du mat commence le compte à rebours. Sors de ma chambre en prenant soin de respecter les étapes sur mon parcours. D'abord les poches de mon père, clé de voiture. Puis passer par la fenêtre, sortir dehors, mettre les chaussures. Clé sur contact, attendre qu'une voiture passe. Camoufler le bruit quand je démarre. Rouler un peu plus loin pour mettre des phares. Puis direction la gare sans qu'on m'arrête. Non, j'ai pas le permis. Prise de risque maximale pour public averti. Ma première expérience dans un camtar. J'entends cette petite voix qui me dit.
Alors, une MST, c'est quoi, Jamy?
Tu trouves quand même des bonus compris dans le prix de vente. Kosovarde ou béninoise, champagne master en langue vivante. Ressent des pulsions lancinantes, une douce chaleur qui t'emplit le ventre. Découvre un monde aux saveurs enivrantes. La sueur de 15 clients incrustée sur un matelas moite. Le parfum des lingettes pour bébé qu'elle se passe dans la chatte. Les lampes à pétrole, l'odeur du sperme, les corbeilles pleines de capotes qui seront comptabilisées par un Mac. Et pendant que t'es là et que tu fais tes affaires, une deuxième fille dort à l'avant. Les putes travaillent souvent par pair. Crois-moi, c'est le genre de truc qui détendra même les plus complexé. Vive le camtar et sa promiscuité. Y'a deux écoles, les staff et tout l'hôtel. Aller chez l'habitant ou choisir l'ennui d'un voyage organisé. Vois pas la chose avec effroi. Dis-toi que les femmes ont besoin d'une raison pour le faire. Nous, juste d'un endroit. Donc j'ai attendu la tapis dans la pénombre. En attendant mon tour, j'angoissais, je comptais les secondes. Excitation féconde, mais laisse-moi dire le plus kiffant. Une chance sur deux d'attraper le tas. Y'a plus lubrifiant et j'appelle ça l'amour du risque. Explore ton côté sombre. Remonte le col de l'utérus plus vite que Lance Armstrong. Moi j'ai vite appris à calculer. Leur vice, penses-tu? Ma bite coincée entre ses cuisses en période de menstru. Mais je flirte avec le sordide, je me débine pas. Je sais que l'argent que je lui file va servir à payer les couches et le blédina. Ne surtout pas tomber dans l'empathie, crois-moi. T'es dans la merde si tu commences à faire ton délicat. Là, elle jouera sa carte fragile et consentante. Et toi, bah tu te feras alléger les couilles et le compte en banque. Et c'est une règle de base dans un rapport que tu monnaies. Te laisse pas attendre sous peine de te faire soutirer plus d'oseille. Réprime ta morale, assouvis tes pulsions. Découvre que rapport payé donne plus d'excitation. Un pas subliste. Une pute n'éprouve pas d'émotion. Si tu l'as fait cligner d'un œil, t'as rempli ta mission. En résumé, du sexe, du stress et des tas de frissons. Le plus vieux métier du monde perpétue la tradition. En équipe, mieux qu'un laser quest, tu perds, t'as plus qu'à faire le test. Vénard, si tu t'en tires juste avec un herpès. Les putes et moi, une grande histoire d'amour. Mes premiers émois, mes premiers exploits, première tranche de bravoure. Combien de fois j'ai fait le tour du rond-point pour la 15e fois? Toujours le même frisson quand je parle des putes et moi.
Alors, toujours pas convaincu?
Je suis toujours pas très chaud.
Bah vas-y, finis la discussion. Aurel, dis-nous ce que tu penses de la prostitution.
J'entends souvent, pour baiser j'ai pas besoin de payer. C'est bien d'avoir sa fierté, moi je l'ai fait. Avant 18 ans j'osais pas tester. Comme j'habitais pas très loin, j'observais leur va-et-vient, je rêvais. Je voyais des mecs perdus et des caisses de PDG. Des pères de familles prendre des putes avec leur siège bébé. C'est vrai, j'ai sauté quelques repas pour essayer. Comment c'était? À chier, chaque fois j'ai regretté. T'es loin du glamour de Pretty Woman. Quand tu te retrouves à rentrer mou dans une vessie toute crade. Quand l'odeur des types d'avant est limite soutenable. Quand tu comprends, casse-toi connard quand t'es dit goodbye. Je suis rentré chez moi, plastique sur la bite tout pâle. J'ai mis 3 mois avant d'arrêter de me sentir coupable. Et puis j'y suis retourné, ah quelques bon fois pour vérifier. On m'a dit de jamais rester bloqué sur mes premières idées. J'étais fixé, jean baissé entre deux pare-chocs. J'arrive à penser à rien d'autre qu'à l'accident de capote. C'est qu'une grande carotte, sauf si t'aimes les plans femmes mortes en période de règles. J'aime les trucs sales dans des endroits propres, c'est tout le contraire. Les lingettes désinfectantes, ça me bloque. Et mettre tellement de lubrifiant, tu peux rentrer sans que ça frotte. Autant tremper ta bite dans la flotte. Peu importe ce qu'elle fait avec ses mains, elle en a rien à branler. J'ai déjà pris plus de plaisir chez le médecin. C'est bien si les putes t'excitent, mais j'ai vu des bouchers, des coupes et des poulets d'une manière plus sexy. Si tu crois qu'une pute gémit, t'as dû entendre un soupir. Si être fille des chlamydia, tu repars avec un souvenir. Oublie tes fantasmes et s'en tape de tes problèmes sexuels. Les putes n'ont aucune conscience professionnelle. Quand elles s'écartent à moins d'un mètre pour aller pisser, tu vois que le service après-vente laisse à désirer. Je m'en bats les couilles de leurs clichés, plein de préjugés. Mais c'est quand même bizarre de pénétrer les réfugiés. Bon, j'ai quand même tenté une autre approche. Nouveau compte en banque, nouvelle décadence, nouvelle girlfriend, expérience pour faire avancer la science. J'ai trouvé, décidé, escorté, j'ai tenté ma chance. Pour les plus bonnes, j'attends toujours qu'on me rappelle. Pour les autres, tu connais l'expression.
Photo non contractuelle.
La première était tellement moche, mon cœur s'est arrêté. AVC. Tu me crois que j'ai baisé quand même pour pas la vexer. Le temps de digérer la honte. Et je suis chez une femme ronde avec une sale tronche qui veut que je crache en 3 secondes. Doit y avoir un chronomètre dans sa chatte blonde. C'est pas dans l'annonce qu'il fallait baiser contre la montre. C'est pour vénal, gâche tout parce qu'elle joue très mal. Prends tes 200 balles et va te payer des cours de théâtre. C'est plus fort que moi, je veux toujours qu'elle me trouve spéciale. J'ai trop d'égo pour être un coup banal, je fais tout le travail. C'est elle qui devrait me payer. J'essaie de les mettre à l'aise au point que ça me fait stresser. Je passe les 30 premières minutes à bégayer. Quand j'ai les annonces et quand elles barrent, c'est mes moments préférés. Des trottoirs au camtar, aux maisons closes, aux vitrines. Qu'elles arrêtent de se plaindre, c'est toujours moi la victime. J'ai perdu beaucoup d'amour propre et un peu de
money.
Quand je suis à deux doigts de craquer, je me dis que la capote aussi. Les putes et moi, une suite d'histoires lamentables. Crois-moi, oublie les films de boules que t'as dans le crâne. C'est qu'une grande arnaque ou peut-être que j'ai pas le mental. Rendez-moi mes 50, mes 100, mes 300 balles.
Les putes et moi, une grande histoire d'amour. Mes premiers émois, mes premiers exploits, première tranche de bravoure. Combien de fois j'ai fait le tour du rond-point pour la 15e fois. Toujours le même frisson quand je parle des putes et moi.
Every light on this side of the town.